seulement pourquoi on m'a invité, mais pourquoi j'ai accepté de venir ici. On m'a invité, Francis, vous l'avez rappelé, parce que vous vouliez, dans ce jubilé consacré à l'espérance, parler un peu d'espérance. Et vous m'invitez, moi, parce que j'ai effectivement écrit il y a près de 10 ans, j'ai même écrit il y a 10 ans, et ça a été publié quelques mois plus tard, un petit livre sur l'espérance, donc qui est en vente à la sortie. Je ne sais pas si le libraire est dans la salle, mais en général, ils aiment bien que je le dise, que je le répète, donc je fais une page de publicité, parce qu'ils ne transportent pas des cartons pour rien. C'est un petit livre que je ne vais pas vous lire intégralement, parce qu'il est tout petit, et si je le lisais intégralement, dans la soirée, on en aurait fait une bonne partie. Mais à vrai dire, dans ce petit livre, si vous l'achetez, vous verrez que il y a 10 ans, je commençais en remarquant que, alors que je vis à l'étranger, alors que je vis en Égypte, quand je passe en France, je sentais, il y a 10 ans, une forme de déprime. Eh bien, effectivement, c'était il y a 10 ans. Et franchement, qu'est-ce qu'on connaissait à la déprime il y a 10 ans? En vrai. Non mais, réfléchissons un instant. Quand je repense à ce livre-là, je me dis, j'ai osé écrire ça. Mais souvenez-vous, quand il y a 10 ans, aucun d'entre nous dans la salle, sauf s'il y a peut-être des médecins, ne connaissait le sens des expressions charge virale ou immunité collective, que nous tous connaissons aujourd'hui. On est au point là-dessus. Et quant à pandémie, ça évoquait des moments médiévaux, lointains, des pestes noires. Voilà. Il y a 10 ans, si on nous avait dit que la guerre en Europe, même l'angoisse, la possibilité en tout cas de la destruction nucléaire, qui sonnait un petit peu années 50, c'est plutôt l'enfance de mes parents en matière d'angoisse, allait de nouveau surgir, je ne sais pas si j'y aurais cru. Il y a 10 ans. Souvenez-vous encore, il y a 10 ans, la France, l'Europe, les États-Unis apparaissaient comme des îlots de stabilité qui montraient qu'un cadre démocratique à peu près apaisé pouvait constituer un horizon possible pour l'humanité tout entière. On n'y était pas, mais les autres allaient bien finir par y arriver à notre système qui, quoi qu'on en dise, allait quand même assez bien. Quant au dérèglement climatique, souvenez-vous, il y a 10 ans, on en parlait. On en parlait il y a 10 ans, mais qu'est-ce qu'on disait? On disait, quel monde allons-nous laisser à nos enfants? En plus, vos enfants que les miens, mais bref, vous comprenez l'idée. Quel monde allons-nous leur laisser? On prenait un air grave pour évoquer cette question, mais les perspectives étaient quand même assez lointaines. On n'imaginait pas qu'on allait connaître aussi rapidement des étés traversés par des méga-feux, des inondations dramatiques, annonciateurs de catastrophes qui n'ont pas l'air décidés à attendre les générations suivantes. Et alors, toujours en phase avec son temps, il y a aussi l'Église, qui en matière de catastrophes a quand même voulu marquer le coup aussi. Souvenez-vous, il y a 10 ans, on savait que les abus sexuels, ça existait, mais on n'avait quand même pas idée de l'ampleur. On a eu, me semble tous, collectivement, une prise de conscience. Alors la prise de conscience est une bonne chose, mais c'est quand même pas très réjouissant. De l'ampleur du phénomène dans le monde entier, de cette Église qui est là quand même pour sauver le monde, pour transmettre le salut au monde, et qui s'est retrouvée tant de fois à couvrir des actes criminels. L'Église, en plus, déjà, il y a 10 ans, ce n'était pas la grande forme par ailleurs. En Occident, en tout cas, on ne pouvait pas dire que c'était, ça débordait d'énergie. On était déjà quand même pris dans des querelles liturgiques incompréhensibles au reste du monde. Mais voilà qu'avec la question des abus, on a pu se mettre à douter, pas forcément de Dieu, mais en tout cas vraiment de cette barque de pêcheurs dans laquelle on avait eu l'imprudence de monter. Alors, ça, je vous ai dit pourquoi donc on m'a invité, c'est parce que j'ai écrit ce livre il y a 10 ans. Pourquoi j'ai accepté? Parce que je suis un petit peu inconscient, paresseux, et je me suis dit, puisque j'ai écrit ce livre il y a 10 ans, On va faire la soirée autour de ce bouquin-là. Je vais redire un truc que j'ai déjà dit. Au moins, ça ne me demandera pas de travail. Vous savez comment sont les auteurs. Et donc, on va y aller tout de suite. On signe, voilà. Et en vrai de vrai, quand j'ai mesuré ce qui s'était passé en 10 ans, ce que je viens de faire avec vous rapidement, je me suis dit, ah, c'est compliqué en fait, de faire comme si de rien n'était. De faire comme si de rien n'était devant tout ça, comme si j'avais trouvé le moyen de mettre la main sur l'espérance. Comme quand même, j'avoue que moi aussi, ça, tous ces éléments accumulés mettent un petit coup. Où trouver cette espérance à vous partager? Alors, vous me direz, mais au moins cette année, on a eu un jubilé sur l'espérance qui n'est pas encore fini, mais qui est quand même bien avancé. Donc ça fait des mois qu'on entend parler d'espérance. Donc au moins, j'aurais pu avoir quelques idées. Alors, je n'ai pas du tout tout suivi à ce qu'il y a pu se dire sur l'espérance, mais mon bilan de jubilé personnel, qui est très personnel, et vous avez le droit de ne pas du tout le partager, mon bilan à moi, du peu que j'ai entendu, ça ne m'a pas donné le sentiment qu'on était très bon dans l'Église pour parler de l'espérance. Parce que il me semble qu'on ne sait pas toujours très bien comment prendre la question. Je m'inclus dedans, hein. Mais la cinquième fois qu'on entend la distinction entre espoir et espérance, on est un peu fatigué quand même. On se dit, bon, oui, d'accord, oui, il y a l'espoir humain, et puis l'espérance dit... D'abord, c'est une distinction qu'on ne peut faire qu'en français. Je ne connais aucune autre langue où elle existe. C'est quand même un peu gênant. Si c'est vraiment le cœur de ce qu'on a à dire sur l'espérance, c'est que c'est quand même pas beaucoup. Et je connais plusieurs langues, par ailleurs. Donc, bon, c'est quand même, voilà. Si c'est pour nous dire aussi qu'il faut aller au fond du désespoir pour trouver l'espérance. Enfin, il y a des discours un petit peu usés et qui, moi, me désespèrent plutôt, pour être franc. Les discours sur l'espérance. Alors, je sais qu'il y a une carte qu'on sort en général quand on veut parler d'espérance, c'est la carte Charles Péguy. Là, on se dit, ah mais si, regardez Charles Péguy, en général on n'a pas lu le poème, mais on voit un tout petit peu, voilà, c'est le poème qui s'appelle le porche du mystère de la deuxième vertu étant l'espérance, et qui est un assez beau poème par ailleurs, moi j'aime beaucoup Péguy, mais alors, s'il y a un poème de Péguy qui ne me convainc pas, c'est celui-là. Vous savez, c'est celui où l'espérance est présentée comme une petite fille. Alors c'est magnifique, la petite fille, espérance et tout ça. Pourquoi ça ne me convainc pas? Alors Péguy, dans ce poème-là, nous dit, au fond, c'est Dieu qui commence à parler en disant que la foi, ça ne l'étonne pas. Parce qu'il y a toutes les raisons de croire en Dieu. Oui, alors il y en a qui ne sont pas d'accord, mais vous irez en parler avec Péguy. Hein, là, à ce stade, je ne prends pas ça pour moi. Mais Dieu, chez Péguy, dit « la foi, ça n'est pas étonnant, c'est tout à fait logique après tout, il y a tellement de signes et d'évidences que, voilà. » La charité, continue Dieu, toujours chez Péguy, ça ne m'étonne pas, il y a tellement de personnes aimables et de choses aimables en ce monde, franchement, c'est normal qu'on puisse aider. Mais ce qui étonne Dieu, toujours chez Péguy, c'est l'espérance, parce que, après tout, comment croire en un avenir meilleur? Et c'est là que pour moi le bât blesse, c'est que pour Péguy, la vertu d'espérance consiste à croire que ça ira mieux demain. Et c'est très beau, le paysan avec ses enfants qui se dit, ben voilà, l'avenir sera meilleur pour eux. Si c'est ça la vertu d'espérance, je ne vois pas très bien en quoi c'est une vertu théologale, une vertu qui rend Dieu présent. Parce que ça ressemble quand même fortement à quelque chose qui ne me surprend pas parce que je le partage, qui est l'optimisme. L'optimisme, ce n'est pas une vertu, c'est une manière d'être, c'est un caractère, c'est un trait de personnalité. Et c'est un trait de personnalité qui n'est ni bon ni mauvais. Oui, sans doute qu'être optimiste, oh ben, c'est plus agréable à vivre. Mais comme me dit, j'ai un frère, je suis prieur de ma communauté au Caire, il y a un frère qui arrive systématiquement en retard à l'office et il me dit « c'est parce que je suis optimiste ». Et je pense que j'aurai le temps de tout faire avant l'heure de l'office. Effectivement, je le vois descendre, arriver au petit déjeuner quand moi j'en pars Quand j'en pars en me disant, je vais être en retard à l'office là, il faut vraiment que j'y aille. Et lui arrive comme une fleur pour commencer à prendre son café. Je me dis, mais il n'y a aucune chance. Voilà. Il me dit, bah, je suis optimiste. Bah, alors, certainement qu'il est optimiste. Et là, on voit, bon, c'est pas dramatique, hein, mais on voit que ça n'est pas une vertu. Parce que c'est un manque flagrant de réalisme. Il ne voit pas les choses. Peut-être qu'un pessimisme un peu tempéré, pas trop désespéré, permet au moins de faire face, de prévoir les difficultés. Et de... Donc franchement, non, l'optimisme, même si je suis plutôt optimiste moi-même de nature, ça n'est pas une qualité morale. C'est peut-être plus agréable à vivre tous les jours, on est plus souriant, on est plus détendu, mais franchement, personne n'a dit que les saints devaient être optimistes. Je crois qu'il y a des saints optimistes et des saints pessimistes. Il y a des saints joyeux et des saints plutôt dépressifs. Tout existe. Il y a des saints. Non, mais c'est vrai, heureusement. Il y a des saints qui doutent et des saints qui ne doutent pas. De la même façon, on me dit oui, mais alors, moi, mon père, je suis désolé, je doute. Je dis mais. Et devant une carte de restaurant, est-ce que vous trouvez tout de suite ce que vous voulez? Ah non, jamais, je passe une heure à choisir. Je dis mais c'est, vous voyez, c'est un trait de personnalité. Ce n'est pas une question de rapport à Dieu. Donc, ce n'est pas grave. Mais donc, la question des traits de personnalité ne sont pas à canoniser, surtout s'agissant donc de l'optimisme, puisque ça peut aller dans tous les sens. Et en tout cas, ça n'a rien à voir avec une vertu théologale. Et j'entends parfois des gens qui me disent, de la même façon, « Mon père, je manque d'espérance. Pourquoi ? Parce qu'il n'arrive pas à croire que tout ira mieux demain. » Mais qui peut dire que tout ira mieux demain ? Personne n'a jamais demandé de croire ça. Ça ne fait pas partie de la foi catholique. Il y a même des pages de l'Évangile où Jésus semble nous dire que demain, ça ne va pas être très drôle. Si vous vous demandez où, allez donc regarder du côté du chapitre 13 de l'Évangile de Marc, discours apocalyptique de Jésus. J'ai aussi écrit un livre là-dessus, je ne sais pas s'il est en vente à la sortie. On verra bien que ça va être quelques mois avant l'Apocalypse. Deuxième page de publicité. Si avec ça, le libraire ne m'offre pas un verre. Bref. Oui, je ne crois pas que l'Église nous ait jamais dit que dans notre foi, dans le credo, il y ait, et je crois, que ça ira mieux demain. C'est sympa, hein, mais vous vous souvenez peut-être, pendant le Covid, en Italie, vous vous souvenez que l'Italie a été un des pays les plus marqués, les plus touchés, surtout au début, et il y avait, on l'a un peu su en France, ce que faisaient beaucoup les Italiens, c'est qu'ils accrochaient à leurs fenêtres des panneaux, des draps, des machins, sur lesquels ils avaient écrit « Andrà tutto bene ». Tout ira bien. Tout va bien se passer. Alors, tant mieux. Je veux dire, c'est sympa, ça relève le moral. Mais qu'est-ce qu'ils en savaient? Non mais sérieusement, au début du Covid, qu'est-ce qu'on en savait que tout va bien se passer? Je veux dire, qu'est-ce qui permet de dire ça, mis à part la bonne vieille méthode du docteur Coué, vous savez, ce pharmacien de Nancy qui faisait répéter 30 fois, matin et soir, à ses fidèles, la phrase « Aujourd'hui et tous les jours, et de tout point de vue, je vais de mieux en mieux. » Bon, c'est bien, c'est sympa, et c'est sans doute que ça donne un coup de fouet, hein, un peu sympa. Ça ne guérit pas le cancer. Mais ça encourage. Peut-être qu'on se sent mieux, ce qui est toujours intéressant. Mais ce n'est pas ça, la vertu d'espérance. Ça ne peut pas être ça. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, j'ai eu envie... de faire ce que je sais faire, le moins mal, c'est-à-dire d'aller regarder dans la parole de Dieu. Puisque, globalement, moi, mes raisons d'espérer ne sont pas si évidentes que ça. Allons regarder dans la parole de Dieu. D'autant que la parole de Dieu, la Bible, elle a beaucoup de choses à nous dire sur les temps déprimants. On en a beaucoup d'exemples de moments un peu déprimants. Vous avez le prophète Jérémie qui a vécu la prise de Jérusalem par les Babyloniens et la destruction du Temple. Dans le genre, c'était pas mal en matière de déprime. Il y a aussi des catastrophes plus personnelles. Si vous allez voir le livre de Job, qui perd sa fortune, ses enfants, sa santé, et qui garde sa femme qui lui casse les pieds. C'est vraiment, il a vraiment tout raté. Oui, non, mais parfois la Bible est macho, je suis désolé. Mais là, en l'occurrence, c'est le cas. Bref. Le livre de Job est, même si j'arrive à vous faire rigoler avec, en fait, fondamentalement, c'est pas un livre très, très enthousiasmant sur, le, sur, moi sur le point de départ, c'est quelqu'un qui traverse une catastrophe existentielle totale. Mais il m'a semblé plus exact d'aller sur un autre livre qui nous parle plutôt d'un temps de découragement et de déception. Et c'est le livre du prophète Agée. Agée n'est pas un adjectif, ça ne veut pas dire qu'il est vieux. C'est Agée avec deux G, Haggai en hébreu. J'imagine que beaucoup d'entre vous ne sont pas ultra familiers de ce petit prophète. On appelle les petits prophètes ceux qui ont des petits livres. Alors lui, il a carrément un tout petit livre, deux chapitres de l'Ancien Testament. Mais voyez, vous ne serez pas venu pour rien. Vous aurez au moins appris l'existence d'un livre biblique. Et même, vous pourrez vous donner le luxe d'aller le lire, puisque c'est très court. Donc n'hésitez pas à lire le livre du prophète Agée. Agée, lui, vit à la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ. Et il n'affronte pas la période la plus tragique de l'histoire du peuple d'Israël. Il y a des moments plus difficiles, je vous ai parlé de Jérémie qui était un petit siècle avant. Lui, il a vécu quand même quelque chose de plus dur. Agée, c'est moins grave. Il n'a pas connu le siège abominable de Jérusalem dans lequel les mères faisaient bouillir leurs enfants pour les manger parce qu'elles avaient faim. Il n'a pas connu la destruction de la ville, la destruction du temple, la déportation d'une bonne partie de la population à Babylone. Mais ça reste déprimant, ce qu'a vécu Agée. Donc je vous disais, un siècle avant, les Babyloniens ont déporté, après avoir ravagé la ville, une bonne partie de la population. Globalement, tous ceux qui soit savaient lire, soit savaient un vrai métier. Donc les gens un petit peu sérieux, ils les ont envoyés à Babylone. Mais Dieu, par Jérémie notamment, avait promis aux déportés qu'ils reverraient la terre promise, la terre donnée par Dieu, qu'ils retrouveraient Jérusalem. Et après 70 ans d'exil, enfin, grande joie, les Babyloniens sont vaincus par les Perses et le roi des Perses, Cyrus, décide d'autoriser les Juifs à rentrer à Jérusalem et en Judée. Alors là, c'est l'enthousiasme partout pour le grand retour. On considère même que Cyrus est le Messie. On se dit, bah, là, quelqu'un qui nous permet de rentrer chez nous, c'est forcément le Messie, le sauveur du monde. On s'aperçoit que Dieu ne nous a pas oubliés, que lui qui avait su faire sortir son peuple d'Égypte à l'époque de Moïse, eh ben, il est toujours capable de faire des miracles quelques siècles après, et des grands miracles. On va donc retrouver la terre promise et avec elle la splendeur du temps du roi David, du temps du roi Salomon, quand on dominait la région, que le temple était un lieu immense et magnifique. Alors évidemment, on sait qu'à ce stade, les patrons, ça va rester les Perses. Mais quand même, maintenant qu'on rentre chez nous, on va voir ce qu'on va voir. Et alors précisément, on n'a pas vu grand-chose. Il n'y a pas de catastrophe, mais simplement, tout est beaucoup plus difficile que prévu au retour. C'est d'ailleurs pour ça que j'imagine que beaucoup d'entre vous, vous avez entendu parler de l'Exode, Moïse, tout ça très bien. De l'exil à Babylone, oui, ça dit quelque chose. Mais le retour de l'exil, on ne voit pas très bien. Et c'est normal parce que ce n'est pas très glorieux. Ce n'est pas très glorieux, ce n'est pas dramatique non plus, mais ça ne marche pas. D'abord parce que les exilés revenus à Jérusalem s'aperçoivent que sur place, il y a déjà du monde. En effet, il y a ceux qui étaient restés, qui étaient les plus pauvres du pays, qui sont restés sur place. Et puis, il y a certainement des gens de la région qui ont vu qu'il y avait de la place et qui se sont installés. En 70 ans, ils auraient eu tort de ne pas le faire. Et entre ceux qui reviennent et ceux qui sont là, bah, tout ne va pas être simple. Même si globalement, tout le monde se dit juif, hein, tout le monde dit « oui, on est d'ici, on adore Dieu, le Dieu d'Israël, pas de problème ». Mais on ne s'entend pas très bien sur ce que c'est, parce qu'à Babylone, les exilés, ils ont vécu des expériences religieuses importantes, avec des prophètes, avec tout ça, et ils reviennent un peu sûrs d'être chez eux, et en disant, mais si, je t'assure, j'ai une généalogie très claire, je sais très bien que mon arrière-grand-père vivait là, et on dit, bah, c'est gentil, mais ton arrière-grand-père, il est mort et enterré, moi j'habite ici, donc tu te débrouilles. Et puis c'est, en fait, c'est bien beau de vouloir reconstruire Jérusalem, vouloir lui redonner sa splendeur passée, avec ses murailles, avec son palais, avec son temple, et pour tout ça, eh ben, il faut de l'argent. Et Cyrus, il a beau être le Messie, il n'en a pas donné. En tout cas, il n'en a pas donné assez. Et voilà, c'est un refrain qu'on connaît bien. Il n'y a pas de sous. Il n'y a plus de sous. Autrefois, on pouvait faire le temple. Autrefois, on pouvait faire des palais. Mais là, désolé, mais les caisses sont vides. Toute ressemblance avec... interprétez comme vous voulez. Non, mais c'est-à-dire qu'au-delà des questions budgétaires récentes, vous voyez un petit peu à quoi je fais allusion, on a l'impression que tout ce qui fonctionnait il y a 30 ans ne fonctionne plus. On se dit, mais vous avez... oui, mais il n'y a plus de sous. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé en 30 ans ? Bref. Le grand retour, le rêve, le grand rêve du retour, tourne non pas au cauchemar, mais au réveil un peu difficile. Vous voyez la petite gueule de bois. Se dit, oula, c'était bien quand on en parlait hier soir, ce matin, je vais plutôt prendre un Doliprane. Parce que on se retrouve là à compter les factures en fin de mois, à constater qu'aucun souci n'est réglé. Et alors on a même arrêté, assez vite, de reconstruire le temple de Jérusalem, le temple de Dieu qui avait été détruit par les Babyloniens. Au départ, à l'arrivée, on s'y était mis plein d'entrain, dès le retour d'exil. Et puis, devant l'ampleur de la tâche, on a un peu vite lâché l'affaire. Pas définitivement, on s'est dit, un jour on va le reconstruire. Mais là, il y a plus urgent, parce qu'il fallait tout rebâtir. Le temple viendrait, mais là, ce n'était pas le moment. Et on en est à peu près toujours là, quand, 16 ans après le retour, tout le monde est un peu découragé, parce que ce qu'on avait espéré... Et ce qu'on avait espéré ne s'est pas produit. Pourquoi d'ailleurs ? Mais parce qu'on avait espéré dans le passé. C'est un des vrais problèmes à ce moment-là, c'est qu'en fait on s'aperçoit qu'on avait espéré en quoi ? Ben dans le passé, c'est-à-dire David et Salomon. La grandeur du passé, c'est ça que Dieu va nous redonner. On a espéré restaurer quelque chose qui appartient au passé, et peut-être même à un passé mythique, nous diraient les historiens aujourd'hui. Ils nous diraient, vous savez, sur David et Salomon, il ne faut pas croire tout ce qui est écrit dans la Bible. On en a rajouté un peu au fil des siècles en racontant l'histoire, et c'est normal. Et c'est normal. Et vous savez bien, quand il y a des gens qui nous disent aujourd'hui, oh, pendant la guerre, on n'était pas si mal. On n'était pas si mal parce que tu avais 14 ans, et qu'à 14 ans, effectivement, il n'y avait pas d'arthrose. Mais en vrai, si, on était plus mal. Mais bref, tout ça pour dire que le passé, on peut le mythifier un petit peu, et on l'avait probablement fait avec David et Salomon, et on espérait retrouver ça, retrouver quelque chose qui n'a peut-être jamais existé, mais quoi qu'il en soit, qui était plutôt du passé, et pas de l'avenir. Et moi, ça m'intéresse, ça, parce que nous pouvons connaître à peu près le même genre de découragement. C'est vrai pour notre société, les sociétés occidentales. On traverse, on le sait tous, on a vécu, ça y est, la fin des grandes utopies, dont la plus ordonnatrice, celle qui, du coup, persiste le plus longtemps, est celle du progrès. On a eu tellement de bonnes raisons d'y croire, au fait que l'humanité avançait dans un progrès à peu près continu, que ce soit de la croissance économique, du progrès technique, du progrès médical. Et on l'a même vu de nos yeux, comment ça... Bon, bah, on se dit, bah, c'est comme ça, l'humanité progresse. Bon, dès qu'on dézoome un petit peu, qu'on voit un peu plus largement l'histoire de l'humanité, c'est moins clair que ça. Mais, bon, et surtout, quand on en est aujourd'hui, on se dit, c'est vraiment pas sûr. Mais, même en se disant, c'est vraiment pas sûr, ceux qui ont, dans cette salle, plus de 40 ans, on est sans doute tous un peu orphelins de cette idée-là. Parce que c'était quand même bien rassurant de se dire, bah, fondamentalement, les choses progressent. Oui, il y a parfois des petits retours en arrière, mais c'est passager, c'est des combats d'arrière-garde, on sait bien qu'on avance. Est-ce qu'on en est aussi sûr aujourd'hui? Il y a quelques doutes dans les regards que je croise. Voilà. Est-ce qu'on va vraiment vers la paix, la démocratie, la victoire sur la maladie? Mais le découragement peut exister aussi, non seulement dans la société, mais dans l'Église, en Occident. Bien sûr, on traverse, et ce n'est pas nouveau que l'Occident fasse face à un processus de sécularisation, de modernité. Oui, on sait bien que ça commence à faire quelques siècles, on est un peu habitué au fait que l'Église ne domine pas la société. Mais plusieurs, même dans cette salle, ont connu un moment d'élan missionnaire dans la vie de l'Église, où on se disait, ça y est, le monde se synchronise avec nous. J'ai travaillé récemment sur des débats islamo-chrétiens des années 1950-1960. C'est assez fascinant à lire, de voir comment des religieux catholiques, en l'occurrence, discutent. Il y a un tel élan missionnaire sur lequel on est encore, qu'ils sont tous à peu près au clair sur le fait que, tout le monde va être chrétien assez rapidement. Oui, l'islam, c'est un vieux truc qui va disparaître dans les 10 ans, hein, c'est voué à disparaître à court terme. Je parle des années 60, hein, 50-60. C'est assez fascinant, ils se disent, et c'est vrai, c'est-à-dire que depuis le milieu du 19e siècle, il y a eu, en même temps que la colonisation, il faut le dire, un élan missionnaire qui a créé des églises partout, qui a christianisé le monde. On va terminer le boulot et on y est, quoi. Ok, peut-être qu'en Europe, il y a Don Camillo et Paul qui se tapent dessus, mais c'est folklorique par rapport à ce qu'on est en train de réaliser, le monde entier qui devient catholique. Et d'ailleurs, même en Europe, justement, je parle de Don Camillo et Pépone, après tout, cette rivalité chrétienne et anticléricale continue à structurer la société, ce qui est toujours une manière pour le catholicisme de structurer la société. Et puis quoi, finalement? Où est-ce qu'on en est? Dans l'indifférence. C'est même plus Don Camillo et Pépone, parce qu'encore là, on se dit, on est important puisqu'on occupe le terrain. Mais non. Le catholicisme est devenu, même s'il a un rôle historique important dans la société française, il est devenu une tribu parmi d'autres. Et il y a plein de formes de socialisation. Le catholicisme en est une, pourquoi pas. Dans la société, il y a un recul, il y a un effondrement clair des vocations. Et ça, c'est même à mémoire humaine, c'est fascinant. Dans les années 50, tout le monde avait un prêtre près de chez soi. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui n'ont jamais rencontré de prêtre de leur vie. Et alors que c'était une figure familière de la société française. Là-dessus, c'est un changement très impressionnant. Les baptêmes, en vrai, les baptêmes d'enfants se sont effondrés. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des baptêmes d'adultes. C'est vrai. C'est vrai, mais si on joue à ce jeu-là, il faut être un peu prudent quand même, les baptêmes d'adultes, et de jeunes adultes notamment, si nombreux depuis quelques années, sont très très loin de compenser numériquement l'effondrement des baptêmes d'enfants. On est très très loin en termes numériques. Vous allez me dire, oui, mais tout ne se compte pas, et vous avez raison. Mais pourquoi je le dis? C'est parce que, vous le savez, je pense que vous êtes nombreux à savoir que, oui, on vit dans l'Église de France depuis quelques années, c'est assez récent, donc il ne faut pas trop s'emballer, une espèce de printemps assez agréable, où il y a beaucoup de jeunes qui demandent le baptême, ou qui demandent la confirmation. Il n'y a pas que des jeunes d'ailleurs, mais c'est assez, assez frappant, et dans tous les diocèses, et c'est pas, ça ne vient pas d'une démarche marketing de l'Église qui s'est dit « on va se présenter sous notre meilleur jour ». Non, c'est arrivé au pire moment de la crise des abus. Au moment où médiatiquement, franchement, l'Église catholique, ça ne faisait pas envie. Eh bien, il y a des gens qui sont venus frapper à la porte. Et pas parce qu'ils ont vu une star, je ne sais pas qui les a fascinés. Non, parce qu'ils veulent demander qu'on leur parle de Dieu. Et ce qui est très très beau, c'est qu'ils ne viennent pas parce qu'ils sont attirés par tel ou tel mouvement d'église, par les charismatiques, par les tradis, par les je ne sais pas quoi, etc. Pas du tout. Ils viennent parce qu'ils veulent entendre parler de Dieu. Et ça, c'est quand même assez fascinant. Mais on aurait tort d'interpréter ce mouvement-là en se disant « Ouf, ça veut dire que la parenthèse de la sécularisation est terminée et qu'on revient au passé. » Là, ce serait un piège dramatique parce qu'on ne comprendrait absolument pas ce qui se passe et ce que ceux qui viennent frapper à la porte de l'Église demandent. Ils ne viennent pas en se disant « Je rêve du bon vieux temps où il y avait le curé du village et où on apprenait le catéchisme par cœur et où c'était comme ça et pas autrement. » Ce n'est pas ça du tout qu'ils demandent. Ils demandent qu'on leur parle de Dieu alors qu'eux sont des enfants de la modernité. C'est ce signe incontestable d'espérance pour l'Église en France aujourd'hui, on aurait bien tort si on le lisait comme un espoir dans le passé. Si on se disait, ça va nous permettre de revenir au temps glorieux de Salomon ou de David. Alors vous allez me dire, non, il n'y a personne qui souhaite le retour au temps de Salomon et de David, mais on a l'équivalent des retours à la chrétienté. Espérer avoir comme point d'ancrage de notre espérance, comme perspective, le retour du passé, et quel qu'il soit, ça peut être le temps des apôtres, ça peut être le temps de mon enfance, avant le concile, ou le temps du concile, et toujours avec de bonnes raisons, là c'était bien. Mais vous savez, oui, parce qu'on peut dire, oui, c'est les réacs qui disent que c'était mieux avant, mais on peut avoir des gens qui disent, oui, non, mais c'était mieux le concile, parce qu'aujourd'hui les jeunes sont réacs, moi je suis plus... Mais dans tous ces trucs où on s'accroche à un moment du passé, sont voués à l'échec, parce que le passé est passé, désolé du truisme. Ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher pour une raison assez simple, c'est parce qu'il y a une prière que Dieu n'exauce jamais, et c'est toutes les prières qui tournent autour de « encore ». Quand on dit à Dieu, quand on demande à Dieu à revivre la même chose, quand on dit « c'était tellement formidable ce que j'ai vécu à ce pèlerinage-là, je veux la même chose », ça, c'est la prière que Dieu n'exauce pas. Pourquoi ? Parce que Dieu veut nous donner davantage. Dieu veut nous emmener quelque part. Il ne nous dit pas, bah, t'as raison, tu t'es bien amusé là, bah, on va te laisser là. Non, Dieu nous amène toujours plus loin. C'est parfois un peu déstabilisant. Mais si on reste constamment dans le petit bain, parce qu'on y est bien, parce qu'on y est à pied, eh ben, le 100 mètres 4 nages, on n'est pas prêt de le nager. Il y a bien un moment, il va falloir passer dans le grand bain et on va se dire « Ah, mais c'est affreux, j'ai pas pied, je sais pas comment faire. » Bon, et bien c'est là qu'on apprend à nager. Et Dieu sait nous faire aller plus loin, quitte à ce que, ben, on perde pied. Et alors, en cette période déprimante, de la fin de l'été 520 avant Jésus-Christ, que dit le prophète Agée ? Parce que c'est bien beau, là je vous ai fait camper le tableau, mais je vous ai même pas dit ce qu'il disait. Un prophète dont on sait d'ailleurs absolument rien de plus que ce que ces oracles dans ce petit livre, c'est littéralement deux pages. Eh bien, Agée interpelle le peuple de Jérusalem au nom de Dieu. Alors, est-ce que Dieu va s'excuser pour cette réalité si décevante ? Va-t-il au moins donner quelques paroles de consolation et de douceur ? En disant, ah, je sais, c'est pas facile, mais je vous aime beaucoup quand même, vous savez... Eh bien, absolument pas. Qu'est-ce qu'il dit ? Rendez votre cœur attentif à vos chemins. C'est Dieu qui parle. Donc regardez d'abord qui vous êtes et ce que vous faites. Et alors, comment ça marche ? Eh bien, c'est plutôt déprimant. Vous avez, continue Dieu, par la bouche de son prophète, vous avez semé beaucoup, mais récolté peu. Vous mangez, mais sans être rassasié, vous buvez, mais sans être désaltéré, vous vous habillez, mais sans vous réchauffer. Vous voyez, la description est assez frappante d'une vie qui n'accroche pas, d'une vie mécanique qui reste à la surface d'elle-même et qui ne crée rien de vrai. On fait tout ce qu'il faut. On mange, on boit, on s'habille, on va bosser, on voit des gens. Mais malgré tout, il manque un truc important. ce qui va donner du sens à cette routine. Et sur ce qui manque, Agé a bien une idée. Ce qui manque, dit-il, c'est le temple de Dieu qu'on a négligé de construire. Tout le monde s'est dit, je fais d'abord ma vie, ma maison, mon business, et puis après je m'occuperai de Dieu. Et c'est pour cela, dit Dieu par Agé, que rien ne marche. Alors, je vous avoue que moi, dans cette interpellation d'Agé, vous irez la lire, vous verrez, c'est assez viril, quoi, ça réveille un peu. J'y trouve, moi, un premier réconfort, une première raison d'espérer. En effet, face à toutes les crises que nous connaissons depuis quelques années, il me semble que le sentiment le plus commun, c'est celui de l'impuissance. Qu'est-ce qu'on a fait pendant la pandémie ? On a regardé la télé ou Internet en se demandant « qu'est-ce que j'y peux ?» Ah ben on me dit que ce que j'y peux, c'est rester chez moi. Je reste chez moi. Face aux guerres, face à toutes les crises politiques ou autres, ou économiques, face aux révélations sur les abus, on peut quand même globalement pas grand-chose d'autre qu'attendre que ça passe. Ce qui est assez démobilisant et assez désespérant. On a vite fait d'être le spectateur attristé d'une époque difficile, condamné à attendre le retour de jours meilleurs. Saint Augustin, au 5e siècle après Jésus-Christ, un petit saut, lui n'était pas, faisait pas face à une situation bien plus rigolote, puisqu'il était le contemporain du pillage de Rome par les Goths. Il va lui-même mourir au cours d'une invasion vandale. Tout ça étant des événements pas très contrôlables. Hein, globalement, vous êtes là dans l'Empire romain finissant, l'invasion des Goths ou des Vandales, vous n'y pouvez pas grand-chose. Ça donne là aussi légitimement envie de rester dans son coin à pleurer, en attendant des siècles plus cool. Augustin donc disait à ses contemporains de ne pas répéter « Quel sale moment, quelle sale période, hein. Les temps sont mauvais. » Non, disait-il, car les temps, c'est nous. Soyons bons et les temps seront bons. Le contexte est peut-être complètement bazardeux, mais ce n'est pas une excuse pour que notre vie soit en bazar, elle aussi. Nous ne sommes pas des bouchons flottants ou ballottés au gré du courant. Non, disait déjà le prophète Agé, n'attendez pas des jours meilleurs. Vous avez beaucoup mieux à faire que ça. Vous avez à bâtir, dans votre vie, le temple de Dieu. Alors bien sûr, reste à savoir ce que ça veut dire. En rugby, on dirait remettre l'église au milieu du village. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, qu'est-ce que ça ne veut pas dire? Est-ce que Agé pense qu'il aurait vraiment suffi de reconstruire le temple pour que tout se passe bien? Est-ce que Dieu en serait avec nous à ce genre de marchandage? Tu viens à la messe de Dieu le dimanche et je t'assure en échange contre le cancer. Alors d'abord, ça ne marche pas. On le sait tous, un jour ou l'autre, douloureusement, même si on aime bien bâtir ce genre de tractation avec Dieu, ben c'est normal, le monde est très inquiétant. Et donc, je vois ça quand des parents viennent demander le baptême de leur enfant, je leur demande pourquoi. Toujours un moment où la maman dit, pour le protéger. Mais je comprends très bien, on peut dire c'est païen tant qu'on voudra, mais je comprends, enfin, là, le monde est hyper compliqué, dangereux, et on se dit, il faut protéger mon enfant, il y a tellement de fragilité là-dedans. Bon, et donc, on est là à bâtir avec des forces invisibles, des espèces de pactes qui tiennent comme ils peuvent, et puis on s'aperçoit bien un jour ou l'autre qu'ils ne tiennent pas. Et ils tiennent d'autant moins qu'en fait, Dieu ne s'est jamais engagé dans ces pactes-là. Que Jésus ne nous a jamais dit, écoutez, si vous venez à la messe le dimanche, et puis vous faites, allez, un petit effort, 5 minutes de prière le matin ou le soir, là, c'est bon, vous ne serez pas au chômage, votre femme ne vous quittera pas, vos enfants trouveront du boulot, et non, ça ne marche pas comme ça. J'ai un jour reçu un jeune, c'était en Égypte, en France, on n'aurait pas osé la faire de la même façon, mais finalement, ça va quand même pareil. Un jeune homme qui est venu me voir en me disant qu'il voulait un accompagnement spirituel. Bien, pourquoi pas, pourquoi donc? Il dit, je veux être un bon chrétien. Alors, c'est un bon point de départ. Pourquoi tu veux être un bon chrétien? Parce que j'ai pas de copine et j'ai pas de boulot. Et donc, si je suis un bon chrétien, Dieu va me donner une copine et un boulot. Pas sûr. C'est pas ça le plan. C'est jamais ça le plan. Alors, rassurez-vous, il n'en est pas resté là. Et puis, depuis, il est marié, il a un boulot. Mais il a quand même compris en route aussi que Dieu n'était pas là pour remplacer Pôle emploi, France Travail, on dit maintenant, ni les applis de rencontre. Et je crois que ce n'est pas ce que Agé nous dit non plus. Il ne nous dit pas « Eh, si vous aviez fait le temple, alors votre vie aurait eu du sens, ça aurait été facile. » Quand Agé dit « Construisez d'abord le temple de Dieu », il ne pose pas des conditions plus ou moins exorbitantes d'un Dieu qui exige d'être servi le premier et qui, en échange, veut bien s'occuper de nos soucis. D'abord parce que avoir un temple, ça n'apporte rien à Dieu. Si on s'imagine que ça lui fait quelque chose, ça lui fait plaisir d'avoir un temple, on se trompe. Dieu, par définition, il a déjà tout. Donc on ne peut rien lui apporter. On ne peut rien faire pour le rendre plus riche ou plus parfait qu'il ne l'est déjà. On construit le temple non pas pour lui faire plaisir, pas plus qu'on ne va à la messe pour lui faire plaisir, mais c'est toujours pour nous qu'on construit le temple. C'est nous qui en avons besoin, c'est pas lui. Alors c'est quoi construire ce temple? Je vais vous le dire quand même assez vite, puisque l'heure avance, et il va falloir quand même vous le dire, d'une expression simple. Je crois que c'est de s'occuper d'abord de ce qui compte, s'occuper de la vie éternelle. Construire le temple tel que l'envisage Agé, ce qui va donner du sens à cette vie quotidienne, dont on ne va jamais sortir, hein. Enfin, peut-être à la mort, j'en sais rien. En tout cas, on n'est pas là pour s'évader de la vie quotidienne. Il n'y a pas de vie où on ne fait pas la vaisselle du petit déjeuner. Peut-être pour des très riches, je ne sais pas. Mais... Enfin, globalement, on est tous à vivre avec cette vie quotidienne. La question, c'est comment y trouver quelque chose qui va lui donner son sens. C'est ça que nous dit Agé. Et ce qui va lui donner son sens, c'est le temple de Dieu, c'est-à-dire la vie éternelle. La vie éternelle, c'est... C'est quoi ? En voilà une bonne question. J'en parle d'autant plus... C'est d'autant plus important d'en parler que je mesure... Alors même, mes paroissiens, ils en entendent parler régulièrement maintenant. Parce que les assomme avec ça. Et je vois combien, même pour des gens qui en entendent parler régulièrement... On se trompe assez vite sur ce que ça peut être. La vie éternelle, si on fait un sondage Ipsos rapide ici, vous allez me dire, c'est la vie après la mort. Ce qui pose un problème de fond, j'étais avec des lycéens au Sinaï le week-end dernier, je leur demande, bon, alors on parle de la vie éternelle, tiens, et alors la vie éternelle, c'est après la mort. Attends, éternelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose qui n'est pas dans le temps. Très bonne définition. Donc comment ça peut être après la mort si ce n'est pas dans le temps? La vie éternelle n'est pas dans le temps, donc elle n'est pas après quelque chose. La vie éternelle, elle est tout le temps. Elle est présente à l'ensemble du temps. Donc ça marche aussi pour la vie après la mort, mais pas seulement. On a un petit souci quand on suppose que l'espérance chrétienne, qui est effectivement une espérance dans la vie éternelle, n'est qu'une espérance dans ce qui viendra après la mort. Parce que là, effectivement, ce serait très démobilisateur pour notre vie aujourd'hui. Si on se dit, il faut juste attendre la mort, en espérant que le conseil de classe va nous faire passer au paradis, et que ce sera bon, et là, on va pouvoir en profiter, là, c'est une catastrophe. Parce qu'on passe à côté de cette vie même. Si Jésus nous ouvre la vie éternelle, c'est précisément, s'il nous l'ouvre dès à présent, c'est pour nous obliger aussi à renoncer à nos frontières entre la vie ici-bas et la vie de l'au-delà. Parce que c'est la même vie. C'est la vie éternelle, elle commence quand on la reçoit, quand on l'accepte, et elle se poursuit éternellement. Ça ne veut pas dire, rassurez-vous, que je vais parler jusque pour l'éternité. Vous allez devoir rester assis sur cette chaise à vous dire, mais puisque c'est la même vie, on va rester là, ça ne s'arrêtera jamais pour l'éternité. Non, rassurez-vous, ça ne marche pas comme ça. Mais de la même façon quand même, quand des gens se disent, bon, on s'ennuie beaucoup à la messe, mais c'est pas grave, parce que comme ça on ira au paradis. On dit, mais alors attendez, si être avec Dieu, ici vous ennuie, être avec lui pour l'éternité, est-ce vraiment une bonne nouvelle? À voir. Non, mais c'est sérieusement, enfin, je dis ça en rigolant, mais c'est sérieusement, si on se dit bah, Dieu m'ennuie, c'est compliqué. Il faut quand même trouver en cette vie comment on peut cohabiter déjà avec lui, vivre avec lui, vivre vraiment avec lui. Et normalement, ça ne, quand on vit vraiment avec lui, on ne s'ennuie pas. Espérer, ça va être alors quelque chose de très concret, c'est croire que dès cette vie, dès à présent, nous sommes capables de construire de l'éternité. Qu'il est possible de bâtir le temple de Dieu dans notre vie. Qu'il est possible de bâtir de l'éternel. Que nous avons, par grâce de Dieu, par cadeau de Dieu, par ce que le Christ nous donne, le moyen de faire de l'éternel. On recommandait autrefois beaucoup, un peu moins aujourd'hui, mais parfois, je ne sais rien, de terminer sa journée en faisant un examen de conscience, en se demandant où est-ce qu'on avait péché. Pourquoi pas ? Mais, à mon avis, on peut faire quand même mieux en se demandant où est-ce qu'on a croisé et peut-être même contribué à bâtir de l'éternel dans sa journée. Où est-ce qu'il y a eu de l'éternel ? Pourquoi c'est intéressant de faire le point là-dessus ? C'est parce que ça permet de voir un petit peu revoir peut-être les hiérarchies habituelles. Qu'est-ce qui est éternel ? Qu'est-ce qui compte vraiment ? Et vous voyez assez vite que les questions de carrière ou de notoriété, matière d'éternité, pas sûr. C'est-à-dire que si le but du jeu, c'est vraiment de passer chef de bureau, est-ce qu'on emportera cette promotion au paradis ? Pas sûr. Est-ce que le but du jeu, c'est d'avoir des likes ou de je ne sais quoi ? Bah, là aussi, en matière de résistance au temps, ça va pas bien loin. En revanche, on va passer une soirée avec vous, j'espère qu'on bâtit un peu d'éternité. Non mais réellement, enfin je dis ça, sinon je ne serais pas venu en fait. Je vous ai dit tout à l'heure pourquoi j'étais venu, c'est parce que j'espérais être paresseux. Non mais c'est parce que j'espère qu'on peut, en essayant de parler d'espérance ensemble, enfin je dis ensemble, c'est un peu moi qui parle, je reconnais, mais quand même construire quelque chose de l'ordre de l'éternité. Rien qu'en en parlant, en l'évoquant, en se disant tiens, on a cette possibilité dans notre vie de faire de l'éternel. Et se dire tiens, bah là je vais faire un gâteau pour ma voisine qui déprime. C'est peut-être pas urgent, au milieu de tout ce qu'il y a à faire, mais ça peut être une bonne brique d'éternité. Le gâteau peut être pas, n'est pas forcément une brique lui-même, mais ça peut être une, voyez, un endroit, un lieu où on construit de l'éternel. Et voyez combien ça se fait dans le quotidien le plus banal. Dans cette vie que nous décrivait Agé, mais dans laquelle eh ben, on s'habille et on a chaud, on mange et on est rassasié, on boit et on n'a plus soif. Pourquoi ? Parce que ce qu'on fait a du sens, parce qu'il construit l'éternité, il construit le royaume de Dieu. Et espérer dans la pratique, ce n'est pas seulement le croire, c'est le vivre et savoir préférer l'éternel au reste. J'ai parlé de carrière tout à l'heure, vous pouvez tout à fait me dire, oui, non, mais là, je fais une carrière parce que je pense que ce que je suis en train de faire a du sens, est important, construit de l'éternité. Très bien. Ce n'est pas la promotion, ou ce n'est pas le contrat de travail, ou ce n'est pas le « j'ai gagné tant ce mois-ci » qui va. Ou alors « je nourris ma famille ». Très bien, là, on peut tout à fait construire de l'éternel. Et c'est toujours la question. Où est-ce que j'essaie de construire de l'éternel dans ma vie ? Qu'est-ce qu'on va faire passer d'abord ? Ce que je veux vous dire par là, c'est que l'espérance chrétienne, elle n'a pas pour perspective le passé, mais elle n'a pas non plus pour perspective l'avenir. L'avenir entendu comme « ça ira mieux demain » ou « ça ira mieux au paradis ». Dans les deux cas, c'est pas la même chose, mais dans les deux cas, c'est sortir du moment de l'éternité elle-même, c'est-à-dire le présent. L'éternité, elle ne se vit que là. Si vous voulez un point de contact avec l'éternité, c'est dans le présent. Dieu, d'ailleurs, est lui-même le Dieu du présent. Vous ne pouvez le trouver que maintenant. Dans les souvenirs, c'est sympathique, mais on a vite fait d'en faire une idole. Et quant à l'avenir, c'est toujours une manière de se défausser. J'ai vécu ça quand j'étais étudiant avant de devenir frère. Je dis, Seigneur, là, je ne prie pas parce que je n'ai pas le temps, tu comprends. Si j'étais moine, alors là, tu verrais quelque chose. Je suis arrivé au noviciat, où là, j'avais que ça à faire. C'est bon, alors, demain, tu vas voir. Là, aujourd'hui, je suppose. Bon. Mais voilà, on peut avoir cette petite tendance à prier autour du pot, à se dire, je serai meilleur pour prier à un autre moment. Et Dieu, il n'est jamais là que maintenant. Le vrai temps, c'est de l'espérance. Je crois que c'est vraiment le présent. C'est d'ailleurs pour cela que, en parlant de l'histoire dans sa dimension tragique, celle d'ailleurs qu'il a sous les yeux, Jésus prend une image biblique, le premier à prendre, ni le dernier, puisqu'on la retrouve chez saint Paul. Une image essentielle, c'est l'image de la grossesse. Il me paraît dire quelque chose d'important. L'image de la grossesse, il parle de l'enfantement qui est en cours, que le monde souffre dans les douleurs de l'enfantement. Qu'est-ce qu'on enfante? C'est Paul qui nous dira, des fils et des filles de Dieu. Nous, le fait qu'on devienne fils et filles de Dieu, c'est ça qui est en train de naître, et c'est une naissance un peu laborieuse. Et le monde est traversé par des souffrances et des difficultés. C'est un monde, le nôtre, qui est en train de donner naissance au royaume de Dieu. Et regardez notre monde comme ça, comme un monde qui donne naissance au royaume de Dieu. Regardez ces difficultés, je pourrais y revenir si vous voulez dans la discussion, mais regardez ces difficultés comme liées aussi à cette naissance. Regardez le monde comme en travail du royaume de Dieu. Ça nous le rend en fait très intéressant. On ne dit pas à une femme enceinte, ou alors toi tu ne m'intéresses pas du tout, on ne va pas s'occuper de toi, parce qu'on va attendre la naissance et là, ça... non. Une femme enceinte, précisément parce qu'on attend l'enfant, on en prend encore plus soin. Mais précisément parce qu'on veut que tout ça se passe bien. Et notre monde en travail d'enfantement du royaume de Dieu appelle plus que jamais notre soin. Un soin d'espérance parce qu'on y trouve un sens. On voit l'éternité qui s'y bâtit, qui y est à l'œuvre, même si tout ça n'est pas évident. Alors, pour conclure, je crois même conclure comme ça, mais déjà maintenant, mais j'ai envie de vous conclure avec une figure, une image. Je me suis dit un jour, il y a quelques années au Caire, je me suis dit, tiens, l'espérance, je l'ai vue. Ça m'a frappé. Oui, je me suis dit, ah là j'ai vu le visage de l'espérance, et ça n'était pas une petite fille, comme disait Peggy. Ce n'était pas une petite fille, c'était une vieille sœur. Et oui, c'était une vieille religieuse qui était présente en Orient depuis longtemps, le visage ridé par le soleil. Elle avait été une petite fille sans doute, mais elle avait un peu vieilli hein, quand même. Depuis ses années de noviciat, ses cheveux sous son voile étaient tout blancs. Et elle avait accepté de vieillir. C'est une sœur comme on en voit... En Orient, on voit des sœurs, je ne dis pas qu'ici on ne voit pas des sœurs admirables, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais disons qu'il y a des modèles, moi je suis toujours épaté de voir des filles qui ont grandi dans les années 50 en Europe, certainement dans des cadres assez étroits, et qui se retrouvent balancées dans le sud de l'Égypte, à faire l'instit le matin, l'infirmière l'après-midi, dans des coins où il n'y a rien, on se dit mais... Ah ouais, c'est quand même des 4x4, quoi. Et qui sont infatigables, qui vous expliquent la vie. On se dit, ah ouais, ça, c'est quand même très beau. Et ben, ma sœur en question, elle a dû accepter qu'elle ne pouvait plus faire tout ça. Elle était déjà vieille. Et elle n'était pas tout à fait la seule. Sa communauté l'avait un petit peu accompagnée dans ce chemin de vieillissement. Une communauté assez âgée maintenant, peu de novices. Beaucoup de vieillissants. Or, quand elle était rentrée, c'était tout à fait autre chose. Quand elle était rentrée, l'institut dans lequel elle était rayonnait, partait à la conquête du monde. Le Proche-Orient lui-même était différent dans ces années-là. On y envisageait l'avenir avec moins d'angoisse, avec moins de terreur. Elle était jeune quand elle avait appris, entendu, pardon, l'appel du Christ. Le même appel qu'au jeune homme riche, l'appel à tout quitter. Elle l'avait pris pour elle-même. Une seule chose te manque, tout ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres, et suis-moi. Et ça, elle l'avait entendu, et elle s'était dit, je vais le faire. Et à l'époque, c'était tout simple, de tout donner. Puisqu'il s'agissait seulement de quitter peut-être un confort, une carrière, de l'argent, une famille, des perspectives qui lui plaisaient sans doute, mais qui ne remplissaient pas un cœur qui voulait l'infini. C'était peut-être pas facile, mais c'était quand même assez simple. C'était joyeux. Parce que suivre le Christ sur les chemins de Galilée, quand tout se passe bien, au milieu des miracles, c'est quand même assez exaltant. Et elle l'avait fait, comme le reste, en rigolant. Mais, à présent, le même appel, elle l'entendait toujours. Et c'était un appel un peu plus exigeant. Tout ce que tu as, donne-le, suis-moi. Un appel plus terrible. Parce que ce qui lui restait à donner encore, cette fois, elle ne voulait pas s'en défaire si facilement. Qu'est-ce qu'elle lui restait à donner ? Bah, la certitude que tout continuerait comme avant. Pas sûr. Le tranquille succès de ses projets, peut-être même la survie de son institut. Toutes ces richesses qu'elle avait entassées depuis son vœu de pauvreté, là, c'était plus difficile de s'en dépouiller. Là, c'était plus suivre le Christ sur les charmantes collines de Galilée, mais sur le chemin de la croix. Mais, après tout, c'était continuer à suivre le Christ. C'était tout ce qui lui restait à faire. Et si elle était honnête, elle l'avait su depuis le début. C'est là qu'elle avait promis d'aller, vers la croix. Et peut-être même au fond, c'est ça qui lui avait donné la force de se mettre en route, au début. Et alors, sur ce visage de sœur, sur ce visage dans lequel, je vous dis, j'ai reconnu, je crois, l'espérance, j'ai vu des rides, j'ai vu des soucis, mais il y avait aussi, quand même, toujours, un petit sourire, au fond des yeux, peut-être le sourire de la jeune fille qu'elle avait été, qui avait voulu suivre le Christ, en donnant tout, en sachant que c'était comme ça qu'elle allait construire quelque chose de grand, de vrai et d'éternel, de bien plus éternel que sa congrégation. Un sourire peut-être même de petite fille, ce qui finalement donnerait raison à Peggy. Merci pour votre attention.